Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Nous sommes depuis un petit moment déjà dans le 21e siècle et une des prochaines réalisations de ce siècle, eh bien, ce sera la bibliothèque numérique à l'Université Lille. Nous allons vous parler aujourd'hui d'IRIS, un projet donc de Lille, l'université, avec Marie-Madeleine Géroudet qui est conservateur de bibliothèque et responsable du service bibliothèque numérique, des services communs de la documentation, la bibliothèque universitaire, et Rémi Frankoviak, qui est maître de conférence, habilité à diriger des recherches en histoire des sciences et épistémologie, pardon, et responsable scientifique de IRIS, donc directeur du master 2 journaliste scientifique, partenariat Lille-ESJ. Voilà, IRIS, c'est IRIS tout seul ou I.R.I.S, Marie-Madeleine Géroudet?
C'est IRIS tout seul.
IRIS tout seul. Donc, c'est un concept, un projet, une entité?
Alors, c'est plus qu'un projet, hein, c'est déjà une réalisation qui est portée aujourd'hui par le service commun de documentation et l'équipe de recherche émergence SCT, donc les historiens des sciences au sein de cette équipe. C'est une bibliothèque numérique en histoire des sciences qui contient déjà 1200 documents, donc déjà une réalisation effective.
Donc cette bibliothèque est ouverte à tous les étudiants, aux chercheurs, aux enseignants ?
Elle est ouverte à tous en fait, puisqu'elle est librement accessible en ligne, donc gratuitement, sans authentification, chacun peut accéder au contenu d'IRIS, qu'il soit de l'université de Lille ou bien de partout ailleurs, en France comme à l'étranger.
C'est donc une source universelle d'informations et de connaissances ?
Tout à fait, c'est le projet des bibliothèques numériques, c'est ça.
Alors justement, le fait que ce soit ouvert à tous, est-ce que ça demande des compétences particulières pour y accéder ou tout est hiérarchisé, classifié, on a des repères assez faciles pour s'y retrouver?
Alors on a conçu l'interface d'IRIS pour que chacun effectivement puisse accéder facilement au contenu de la collection. D'abord il y a une organisation thématique qui permet de naviguer dans les collections sans forcément savoir ce qu'on cherche au départ. Et puis on a un moteur de recherche qui permet très simplement de... avec l'aide de mots-clés, naviguer dans les collections, de découvrir des collections qui nous intéressent. Donc nous, on a fait tout un travail de signalement de ces collections pour qu'elles soient le plus facile d'accès pour tout public.
Comment s'est faite la transition avec l'ancienne BU, hein, bibliothèque universitaire? Qu'est-ce qui reste de cette bibliothèque en termes d'archives, en termes de support, et comment tout ça s'est transféré, j'allais dire, dans le domaine public?
Alors, on n'a pas transféré l'ensemble des contenus de la bibliothèque universitaire. Simplement, on a pris un fonds en histoire des sciences qui existait dans les collections de la bibliothèque et puis on a décidé qu'il était intéressant de numériser ce fonds. Donc, on a décidé de partir sur une cohérence thématique forte qui est la collection en histoire des sciences. Il faut savoir qu'on ne s'est pas contenté de numériser des collections de la bibliothèque universitaire. On est allé plus loin que ça. On a fait appel à d'autres institutions, par exemple le Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques de Liège, qui ont des collections extrêmement intéressantes mais qui ne sont pas signalées. Et on a numérisé également des collections en provenance de ce centre. On a également numérisé des fonds privés de chercheurs. Donc l'idée, c'est bien d'aller chercher les collections où elles se trouvent et donc pas forcément dans les fonds de la bibliothèque universitaire pour donner accès à ces collections au plus grand nombre.
Qu'est-ce qu'apporte aussi le numérique ? On utilise le virtuel, de quelle manière sur IRIS?
Alors, le numérique, il augmente en fait les possibilités de découverte des textes. C'est-à-dire que le processus de numérisation nous permet en fait, grâce à une technique qu'on appelle la reconnaissance optique de caractère, de numériser les documents en plein texte, ce qui permet ensuite de chercher à l'intérieur de ces documents, donc d'augmenter les possibilités pour un chercheur de découvrir en fait des articles au sein des documents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'apporte le numérique. Le numérique, c'est aussi une possibilité accrue de faire découvrir des collections à un public qui n'y aurait pas forcément accès autrement. C'est-à-dire tout ce qui est source de l'histoire, par exemple, autrefois, c'était dans les institutions, accessible uniquement au format papier. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ces institutions, c'était difficile d'accéder à ces contenus. Aujourd'hui, les sources en histoire des sciences, elles sont accessibles à tous, qu'on soit étudiant, qu'on soit lycéen ou grand public, mais aussi tout simplement aux chercheurs qui n'ont plus besoin de venir de loin pour découvrir ces collections. Donc c'est une révolution hein, pour l'accès aux collections.
Alors cet accès, il est, on va dire, sous forme d'arbres, de classification, ou il est aussi sous forme d'animation ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un accès aux collections via une arborescence qui permet doucement d'accéder, progressivement d'accéder en fait à un ensemble de contenus de plus en plus précis. Par exemple, on a une collection en sciences exactes et naturelles, donc on peut choisir de découvrir les documents qui sont dans cette collection. Et puis ensuite, dans cette collection, on va aller plus loin et puis on va découvrir la collection en astronomie précisément. Donc ça sera plus facile de naviguer dans les collections comme ça. Mais on a aussi choisi, et c'est le projet de nouvelle interface. La nouvelle interface d'Iris est sortie en fin janvier 2014. On a aussi choisi de montrer ces collections autrement en rendant visibles en fait les images qui sont à l'intérieur des documents et en créant un module d'exposition virtuelle qui nous permet en fait de montrer les collections différemment. C'est-à-dire qu'autour de ces images, on les accompagne de textes explicatifs et puis comme ça, ça permet en fait à chacun en fait de découvrir différemment les collections et puis à partir des images, d'aller retrouver les textes dont ces images sont issues. Donc c'est une autre façon d'accéder aux collections qui intéresse évidemment moins les chercheurs mais qui intéresse le grand public.
Est-ce que la collection des documents d'Iris est connectée, on va dire activement, dynamiquement à d'autres bibliothèques françaises ?
Alors, c'est un projet qui est en cours et qui effectivement est essentiel pour la visibilité des collections d'Iris. Iris, c'est une bibliothèque numérique de niche, c'est-à-dire une bibliothèque avec une forte cohérence thématique, mais effectivement, elle manque encore de visibilité sur le plan national. Donc, le travail qu'on mène actuellement, c'est un travail qui permettra à Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, donc le projet français le plus connu, d'aller moissonner les contenus d'Iris. Moissonner, ça veut dire qu'en fait, quand on recherchera dans Gallica, on pourra accéder directement aux collections d'Iris. Donc c'est un accroissement de la visibilité qui est extrêmement important.
Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus, le magazine consacré à l'actualité de Lille, l'université Lille, chaque mercredi entre 16h et 16h30. Iris, donc la bibliothèque numérique, est destinée à plein de consultants, on va dire, de personnes qui sont en recherche d'informations et de connaissances. Il y a aussi, bien sûr, dans ces personnes, des étudiants, des gens qui font des recherches scientifiques, notamment. Effectivement, l'université Lille est spécialisée, on va dire, en sciences techniques et en sciences humaines. Qu'est-ce que ça peut apporter donc pour une université d'avoir dans son cœur de vie, j'allais dire, cet établissement qui est aussi ouvert sur, qui est avant tout ouvert sur le numérique, mais qui aussi est un lieu qu'on peut exploiter dans le cadre des recherches et dans le cadre des études spécialisées. Donc Rémi Francoviac. Comment s'intègre ce dispositif dans la formation notamment ?
Iris a eu pour projet de départ surtout d'intéresser les chercheurs lillois d'histoire des sciences, qu'ils soient sur le site de Lille 1 ou sur le site de Lille 3. Cette préoccupation des étudiants est venue bien plus tard. Alors effectivement, Iris sert de support de cours à la fois pour les unités d'enseignement concernant l'histoire des sciences, mais pas uniquement, puisque ça sert également à faciliter l'appréhension, la compréhension de concepts scientifiques dans un cours de sciences classiques. et ça sert également, bien sûr, dans la formation et dans le travail de recherche des jeunes chercheurs durant leur doctorat.
Est-ce que ça peut également aider les étudiants en journalisme scientifique ?
Alors, c'est une question qui avait été creusée aussi, mais la difficulté est que ces étudiants en journalisme scientifique sont axés sur l'actualité scientifique. Alors, le travail de mise en perspective historique des disciplines, des problématiques, des enjeux de des sciences en société aujourd'hui peut se faire, mais ça peut se faire qu'au cas par cas suivant les situations, puisque ça nécessite peut-être une compréhension, une connaissance historique un peu plus ample que celle qu'on peut leur donner en une année de formation uniquement.
Donc si on prend le cas des recherches qui sont réalisées à l'Université Lille 1, est-ce que les gens sont nombreux à exploiter ces bases de données pour faire quel type de recherche ?
Alors, les recherches auxquelles se prête le plus IRIS sont au départ la recherche en histoire des sciences. Depuis la nouvelle interface présentée par Marie-Madeleine, IRIS a vocation de toucher l'ensemble des chercheurs, donc confirmés ou jeunes chercheurs, des disciplines historiques. L'histoire historique, l'histoire de la pensée économique, l'histoire du livre, l'histoire des techniques. Mais pas uniquement, puisqu'on vise également les acteurs des structures de culture scientifique et technique. Alors, par exemple, le Centre de culture scientifique et technique et industrielle, le Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, ou également le Musée d'histoire naturelle qui a utilisé IRIS comme support à une exposition sur le son il y a quelques années.
Donc on a un peu défini ce qu'était IRIS. On n'a pas forcément expliqué ce que n'était pas IRIS.
La question est difficile, enfin, presque comme ça, elle est difficile.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'IRIS, on l'a dit, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas s'attendre justement à rencontrer si on cherche des choses dans des domaines particuliers ? Jusqu'où va IRIS ?
Disons, IRIS a un sous-titre qui est donc Bibliothèque numérique IRIS, en histoire des sciences, regard sur le passé des sciences modernes. Et effectivement, le paramètre général, c'est le passé des sciences modernes, avec également, au final, un regard sur le présent de nos sciences, puisqu'il s'agit d'appréhender les sciences du 19e et du début du 20e siècle, ces sciences qui ont triomphé à l'époque, on a même honoré, qui ont totalement transformé notre monde, et qu'on a au final hérité. La pensée scientifique n'est pas une pensée qui est hors sol. La science n'est pas un champ indépendant et est inscrite dans une époque et dans un contexte qui est multiple. Donc dans IRIS, on trouve effectivement la science au niveau de la production des savoirs scientifiques et techniques, sa diffusion et ses applications. Ça, c'est le cœur de base, mais sans dissocier la science de ses liens avec la culture, la philosophie de l'époque, la théologie, les considérations économiques, sociologiques, artistiques. Au fond, IRIS est à la fois centré sur les sciences, mais très étendu au niveau des relations des sciences avec son contexte. Donc on peut avoir un regard à la fois très spécialisé sur un point particulier, sur un regard très disciplinaire des sciences, mais également avoir un regard sur les rapports entre sciences et art, l'architecture au tournant du 19e, 20e siècle, etc. Donc au fond, IRIS peut potentiellement intéresser beaucoup de gens.
Est-ce qu'avec IRIS, on peut aussi avoir la mémoire ou la trace de théories qui n'ont plus cours, qui sont démenties, mais sur lesquelles on a justement un regard critique ?
Oui, on a par exemple, à travers la numérisation des annales de chimie, donc c'est ce périodique qui commence en 1789, donc prise en charge par Lavoisier, Fourcroy, Guillaume de Morveau, Berthollet, un peu en opposition à la classe de chimie déclinante de l'Académie des sciences, tout en singeant également le mécanisme de l'Académie des sciences, qui va développer la fameuse théorie du calorique. Donc ce fluide subtil qui est censé être universellement présent mais qu'on ne pourra jamais isoler ni soumettre à la pesée. un fluide qui sera combattu au cours du début du 19e siècle, mais dont les termes restent encore aujourd'hui. Dans ce périodique-là, on a également on découvre également le développement de la théorie de l'oxygène, mais d'un oxygène qui est tout à fait différent d'une autre, qui est le principe de l'acidité des corps. Oxygène, et d'ailleurs le terme le rappelle, hein, il construit sur le grec gène qui donne naissance à, qui produit, et oxy, l'acidité. Une théorie qui a été mise à mal dès le début du 19e siècle, et pourtant le terme reste encore aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut en déduire que certaines théories actuelles seront un jour peut-être caduques ?
Ah, et peut-être heureusement, bien sûr. L'histoire des sciences, c'est également l'histoire de la rationalité scientifique. Cette rationalité a une histoire. Et donc déjà, la manière de faire la science n'est pas destinée à demeurer jusqu'à la fin des temps.
Est-ce qu'on peut aussi avoir une idée, une image de la recherche en phase avec le développement technologique de la société d'une manière générale?
Le 19e siècle, c'est le siècle où se met en place tous les rapports entre science, technique et politique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ça commence un peu timidement tout au long du 18e siècle, même parfois assez fortement, mais les choses vont vraiment se cristalliser au cours du 19e siècle. C'est à la fois l'élan du siècle des Lumières, mais un élan du siècle des Lumières qui est mesuré au développement de l'industrie dans la révolution industrielle. Alors c'est tout un monde qui apparaît à la fois en science, en niveau des techniques. C'est un paysage géographique qui se forme avec l'installation de manufactures, d'industries, de ces formidables cathédrales de plomb, hein, chargées de produire l'acide sulfurique. C'est également toute une population qu'on pousse à quitter les campagnes pour intégrer les villes, pour servir d'ouvriers. C'est les premiers mouvements socialistes qui apparaissent. Ce sont également tous les comportements capitalistiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est tout ça qui se met en place au XIXe siècle. Et Iris retrace également l'histoire de notre société à la fois capitaliste et également technoscientifique.
Est-ce qu'il y a eu un âge d'or de la science, ou est-ce que finalement c'est toujours l'âge d'or?
Oui, l'expression a été consacrée pour le 19e siècle. Alors effectivement, la science évolue très rapidement. Étant spécialiste d'une période un peu plus lointaine, hein, 17e, début 19e siècle, on peut repérer des âges d'or à différentes époques, oui.
Est-ce que c'est toujours motivant de chercher? Et est-ce que ça motive d'ailleurs? Est-ce que ça crée des vocations actuellement? Est-ce que vous cherchez des personnes pour, on va dire, étoffer le tissu de la recherche?
Oui, forcément, la recherche, l'envie de savoir, l'envie de comprendre, c'est le moteur premier du chercheur. On est forcément à la recherche d'autres personnes qui pourraient renforcer nos équipes. La difficulté, c'est le contexte actuel de la science, telle qu'elle se fait. C'est les politiques de contrôle de la science, de financement de la science qui changent beaucoup les choses.
Oui, quand on dit contrôle, on peut dire que la science est quand même assez dirigée.
On peut le dire. Alors, ça l'a été très fortement également au XVIIe, XVIIIe siècle, mais ça prend une allure tout à fait nouvelle et assez oppressante aujourd'hui. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il reste comme espace de liberté aux chercheurs? Peut-être qu'il y en a quand même. Hein,
peut-être c'est le fait de se retrouver seul devant des textes du passé, en tout cas pour les historiens, d'évoluer dans des pensées anciennes. C'est une plongée dans un monde qui nous permet d'échapper au monde actuel et dans lequel on est tout à fait libre, effectivement.
Voilà, finalement, on était presque arrivé à la poésie de la recherche, là. Il y a une émotion quand on cherche.
Oui, oui, il y a beaucoup d'angoisse, c'est anxiogène aussi, mais il y a également de grands moments de plaisir de comprendre. Je pense qu'on cherche d'abord pour soi, avant de mettre à disposition sociale les résultats de la science. Mais oui, il y a tout à fait un grand plaisir.
Est-ce qu'on a le même plaisir quand on est étudiant-chercheur et quand on est chercheur professionnel, entre guillemets ?
Si on a la chance d'avoir un financement pour ses recherches quand on est jeune chercheur, on a peut-être même plus de plaisir. On n'a pas les contraintes qu'on a par la suite. Il y a une frustration auquel échappent ces jeunes chercheurs. Et puis une naïveté aussi qui les protège.
Donc, on a parlé tout à l'heure de ce Learning Center Innovation. Donc, c'est un projet qu'on retrouve dans d'autres pays du monde.
Je laisserai plutôt Marie-Madeleine répondre.
Oui, bien sûr.
Oui, des projets de Learning Center, il y en a eu notamment dans le monde anglo-saxon. Après, chaque projet de Learning Center, qui est un concept assez vaste finalement, est différent. L'intérêt du projet qui est actuellement mené au sein de l'Université Lille-1 et avec le soutien très fort de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est... Alors, il faut bien comprendre que c'est la transformation de la bibliothèque universitaire en Learning Center Innovation et que cette transformation donc, se fait sur le site actuel de la bibliothèque universitaire. Donc c'est un nouvel équipement qui va associer en fait la bibliothèque, le pôle bibliothèque qui continuera bien évidemment à exister, à de nouveaux espaces, donc des espaces dédiés à la promotion de l'innovation, à des nouvelles formes de pédagogie et à une vitrine également de la science en train de se faire au sein de l'université. Donc il faut bien comprendre que la richesse d'un tel projet, c'est l'ouverture au-delà de la communauté universitaire de Lille-1 à des nouveaux publics, notamment au public des entreprises, aux acteurs de l'innovation, mais aussi aux publics qui sont également cibles dans IRIS. Et là, la boucle est bouclée et on retombe sur IRIS, c'est-à-dire le public des acteurs de la culture scientifique et technique, le grand public qui peut avoir cette curiosité envers le passé des sciences, et puis les lycéens également. Et donc là, on compte beaucoup sur le public enseignant pour servir de médiateur de ces collections d'IRIS auprès de la jeune génération.
Quelles sont les étapes prévues de ce projet, de l'ouverture des services?
Alors, on est déjà dans une phase de préfiguration, puisqu'il y a déjà des services et sur lesquels on travaille. En ce moment, s'ouvre à Lille-1 l'Experium, qui est un projet justement de vitrine de la recherche en train de se faire, avec des expériences qui seront montrées au public, donc à la fois aux entreprises et puis au public lycéen. Donc ça, c'est une préfiguration en fait de l'ouverture du Learning Center à l'horizon 2016. Là, les travaux du Learning Center vont commencer. Ils seront finis normalement fin 2015 et puis ensuite, en 2016, on ouvrira cet équipement. Par rapport à ça, IRIS est déjà également, la refonte de l'interface d'IRIS entre également dans ce cadre, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans la dynamique de ce projet dans lequel on travaille à la refonte en fait de l'ensemble des ressources qu'on propose pour qu'elles soient plus attractives et plus ouvertes au grand public. IRIS, au départ, c'était il y a encore quelques mois, c'était une interface qui était très utile pour les chercheurs, mais qui était extrêmement difficile d'accès quand on ne connaissait pas l'histoire des sciences en fait. Et du coup, tout le travail qu'on a fait, c'est de rendre en fait les collections visibles et de les rendre attractives pour un autre public. On a notamment beaucoup travaillé sur les images qui étaient dans les collections. Il faut pas hésiter à aller voir le site parce que il y a de très belles images autour de la représentation des sciences et ça vaut vraiment le coup d'aller voir IRIS.
Alors ce site, on peut le trouver à quelle adresse?
Alors c'est iris.univ-lille1.fr.
Voilà, bien, je vous remercie Marie-Madeleine Géroudet et Rémi Francoviac de ces précisions et on aura peut-être l'occasion de se voir pour des étapes ultérieures.
Tout à fait.